Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Ça y est, c'est l'automne, c'est le mois de septembre 2020, mais le catch ne s'arrête jamais et vous le savez, donc on est toujours là. Je suis Raphaël et je suis accompagné de celui qui est toujours là aussi, de l'ami Papy. Comment ça va, Papy ?
Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, mais ça va, c'est l'automne, c'est beau, c'est une belle saison, les feuilles sont mortes et elles tombent comme des
Exactement,
vieux.
Exactement, les feuilles tombent, elles ne sont pas les seules à tomber. Beaucoup de gens sont tombés là lors de ce lundi soir. On a vu de la baston et on va en parler de suite. Donc le Raw du 21 septembre 2020, toujours au Thunderdome. Rappelons au passage quand même que nous sommes un Go Home Show.
Ah oui.
Et oui, qu'est-ce qui se passe dimanche, papy?
Il se passe un pay-per-view, le Clash of Champions.
Le Clash of Champions, c'est donc ce soir-là, tous les titres, on nous l'a dit, vont être défendus. Et au moment où on commence ce show, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse affiche. Il n'y a pas beaucoup de programmation encore. Mais
ça tombe bien.
Ouais, ça tombe bien parce qu'on va y partir. Vous allez voir quand on est parti pour une longue soirée où on va rusher, booker, organiser l'événement de dimanche. Mais alors, ça va être un petit peu compliqué tout ça parce qu'on a à peine lancé notre Monday Night Raw sur notre petit ordinateur, smartphone, télévision, Minitel, comme vous le voulez, que le générique est tout troublé. Alors j'imagine que papy, t'as tapé ton Minitel en te demandant ce qui se passait.
Ah bah déjà, j'ai tout coupé, moi. J'ai demandé à être remboursé.
Ouais, voilà.
Et après, c'était le vrai show.
Eh bien oui, c'était le vrai show. En fait, tout simplement, le générique a été hacké. C'est le hacker qui est là. Et non, c'est pas le hacker. En fait, c'est Retribution. Les Retribution sont là. Ils débarquent au milieu du ring. Donc, ils sont cinq, ces fameux voyous, comme on pourrait les appeler, qui ont depuis des mois tout détruit à la WWE, d'abord à SmackDown, puis à Raw, etc. Alors, on nous apprend... C'est formidable le monde de l'entreprise à la WWE. On nous apprend que la WWE, pour les calmer, a décidé de les signer, de les prendre sous contrat. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne façon de faire, papy, non ?
C'est une bonne tactique. Moi, je pense que la prochaine fois que je veux signer un contrat, je prendrai un parpaing puis je le balancerai dans la vitrine de la boîte que je vise.
Bah ouais,
a priori, ça marche.
Bah, ça marche. Alors, le but, c'était de les calmer, mais visiblement, ça n'a pas trop marché. Donc ils sont 5, 3 hommes et 2 femmes, et ils commencent un peu à tomber les costumes. Alors les grands fans du WWE Universe ont de suite commencé à faire des hypothèses sur l'identité de chacun, enfin plus que des hypothèses. On reconnaît désormais donc clairement et sûrement Mia Yim, avec ses cheveux bleus, il n'y en a pas 50. Il y a un grand mec qui nous fait un... Enfin, on dirait un mélange. Alors, moi, j'ai vu, il y en a un qui fait un cosplay de Bane, il y en a un qui ressemble plutôt aux Anonymous. Enfin, chacun son style. Des tenues assez effrayantes. Ils ont signé un contrat, mais ils nous disent que, en gros, le monde de la WWE est pourri par l'argent, que les superstars de la WWE sont des maladies et que, en gros, ils vont régler tous ces problèmes. Leur catchphrase, il va falloir s'y habituer. Nous sommes à la fois le juge, le jury et le bourreau. C'est comme ça que j'ai traduit exécuteur. Voilà, le Retribution est là. Et immédiatement, ils vont croiser la route du Hurt Business. Donc MVP et ses hommes qui débarquent. C'est les nouveaux héros, finalement, on pourrait dire. Ça va être assez bizarre leur positionnement pendant leur soirée. Mais le Hurt Business arrive. Les 5 personnes de Retribution finissent par reculer hors du ring pendant que le Hurt Business monte sur le ring. MVP leur lance un défi, voilà, ce soir. Il promet, il demande aux Retribution de les retrouver sur le ring, un vrai match de catch pour qu'on voit qui sont les vrais hommes. Sauf que les Retribution, ils sont 5 personnages officiels, mais en fait, ils sont 20, 30, 50 figurants qui débarquent et qui se mettent à tabasser et à détruire le Hurt Business violemment. Et puis, on part à la pub, et puis quand on revient, tout le monde est parti. Donc, c'est la fin du segment. Voilà, la pub, ça règle tout. C'est une bonne solution dans la vue. C'est magique. Si on pouvait lancer des pubs comme ça dans nos vies parfois, est-ce qu'on serait pas plus heureux? Papy, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Effectivement, là, ils ont l'air de tourner la page sur Retribution en officialisant les membres, puisque là, on commence vraiment bien à les reconnaître. Donc, a priori, ce sont les 5 qui avaient été annoncés la semaine dernière, je crois. Effectivement, Mia Yim, Dijakovic, comment il s'appelle Tio Madin, là, l'ancien speaker d'Euro, Mercedes Martinez, et puis bah, le dernier, c'est le mec de Team 61, dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon, on ne le reconnaît pas, vu qu'il a un masque type, comment s'appelle, là, le hockeyeur des films d'horreur, là.
Un type
le nom.
Saut.
Ouais, ou un type Saut, enfin, bref, un mec de films d'horreur, quoi. Bref, ouais. En tout cas, il n'a ni un physique, ni un masque intéressant, ce garçon, donc c'est pas lui qui va nous. Donc perturbés, ils ont aussi des nouveaux noms, je sais, on les entendra
dans le main event.
Ou dans le main event, on entendra, ils ont des nouveaux noms aussi. Donc, enfin, voilà. Là, ils ont vraiment arrêté le mystère du on sait pas qui c'est tout ça. Maintenant, on sait qui c'est et c'est juste qu'on s'en fout. C'est juste des gars avec des masques. Voilà, donc ils veulent tout casser, c'est un nouveau gang. Et puis voilà, je pense qu'ils arrêtent les frais de trucs mystérieux. Maintenant, on s'en fout de leur motivation, on s'en fout de savoir qui c'est. À la limite, un Sanity version XXL avec plein de gens autour qui les aident. C'est Sanity les ninjas, j'ai envie de dire. Et les masques. Voilà. Je n'ai pas d'autres à rajouter là-dessus.
Ouais, donc toi, visiblement, on va dire les motivations, l'histoire, tout ça, ça t'emballe pas trop, cette affaire de. Ça se redit beaucoup. Hein, on a l'impression d'avoir ou un peu du Shield, ou un peu du Nexus, ou un peu toujours les mêmes histoires. Genre. Le roster principal, c'est que des pourris. Nous, on va tout changer. On est les meilleurs. On n'est pas corrompus. Mais bon, bah, ça va faire des bastons. Ça va faire Survivor Series. Et après, on verra bien.
Ouais, voilà. Sincèrement, la motivation, maintenant, j'en ai plus grand chose à faire. j'attendais qu'il y ait peut-être des mecs du main roster pour relancer un peu des trahisons, des machins. Bon, je suis plus sûr qu'il y en aura. Peut-être. Bon, j'ai toujours un petit espoir qu'il y ait Kisley un jour que cela dans l'affaire. Lui qui a comme ses meilleurs amis qui sont dans le groupe, mais bon, s'il n'est pas là, bah, tant pis, ça sera un groupe lambda. J'espère juste qu'ils ne vont pas totalement les planter. Mais en tout cas, ce n'est pas l'histoire Retribution qui m'intéresse, c'est peut-être leurs histoires à venir. Espérons qu'ils aient des idées derrière tout ça.
Ouais. Moi, je suis un peu déçu. Enfin, ouais, j'avais un petit peu de. J'avais pas trop envie que ce soit juste 5. 5 noms qu'on connaissait déjà du Performance Center. J'aurais bien voulu soit une énorme surprise de quelqu'un qui a signé sans jamais avoir été annoncé, hein, comme AJ Styles avait été un temps là, qui avait débarqué direct à un Royal Rumble sans qu'il passe par la case NXT ou Performance oui. Center. Ou alors effectivement quelqu'un du roster déjà là qui soit à la tête de tout ça. Alors c'est vrai que la piste Keifley peut être intéressante, hein. En même temps ils ont débarqué presque dans les mêmes périodes. Et puis bon, et ça, il y a sa femme et son pote là, Djakovic et tout, mais... À voir s'ils vont aller aussi loin dans le scénario ou s'ils vont juste en faire ouais, une sorte de nexus avec des gars qui vont vouloir tout détruire et qui vont finir par
se faire détruire.
Ouais, par être enterrés par Roman Reigns ou John Cena.
Voilà.
Attends, on verra bien. Mais on n'y est pas encore puisque, comme on a dit, la pub, ça permet de tout remettre à zéro à la WWE. C'est formidable. Donc on enchaîne sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est un Triple Threat Tag Team Match pour désigner les challengers aux Street Profits. Pour donc Clash of Champions, bah ouais, il faut, hein, parce que c'est bien sympa de se battre contre les champions de SmackDown, mais enfin, à un moment donné, il faut avoir des challengers. Donc les Street Profits sont aux commentaires. Ils affrontent Andrade et Garza, qui sont toujours en équipe, même s'ils ont perdu leur manageuse. Rollins et Murphy. Et puis Carillo avec Dominique Mysterio. Hein, Rey Mysterio, on l'a vu juste avant en coulisses. Enfin, toute la famille Mysterio est là. Il est fier que son fiston soit sur le ring et il est fier qu'il devienne peut-être un futur champion par équipe. Bon, la suite du match va donner tort à Rey Mysterio, malheureusement. Carillo commence fort en éclatant un petit peu Murphy et Andrade. Ils font avec Dominique un suicide dive sur les deux méchants. Ensuite, on a un échange que j'ai beaucoup apprécié entre Murphy et Andrade, court mais intense, bien stiff. Et puis, alors que Murphy a un petit peu réussi à reprendre l'ascendant, il rampe pour aller taguer Seth Rollins, mais Seth Rollins s'en va sans trop de raison. Sans être énervé, sans haine ni violence, Seth Rollins s'en va. Il laisse Murphy tout seul. Et le pauvre Murphy, bah, du coup, il se fait tabasser par les deux Mexicains, mais pas les gentils, les méchants. Et Garza lui place son finisher et le tombé. Carillo et Dominique avaient complètement disparu. Je sais plus où ils étaient partis, mais en tout cas, Angel Garza et Andrade ont à nouveau un title shot à Clash of Champions. Je sais pas si l'affiche te fait rêver et si ce match t'a intéressé. En tout cas, Rollins, lui, ça l'a pas fait rêver, visiblement.
Ouais, bon, Rollins, il continue sa petite guéguerre avec Murphy. Ouais, moi, ça me. Alors, je boude un peu la division tag team là, depuis plusieurs semaines parce que j'en ai ras-le-bol d'être pris pour un con avec leur booking. Et puis là, bah, voilà, on a encore les Street Profits versus Andrade et Garza qui sont même plus en équipe, qui n'ont même plus d'être tenus à sortie. Bon, pour l'instant, je décide de les bouder jusqu'à qu'ils me ressortent quelque chose d'intéressant, de spectaculaire. Mais là, je ne m'investis plus dans leur rivalité, en tout cas. Et puis, match, bah non, comme tu dis, au moment, tu as le fils Mysterio et Cario qui est débarquant, on ne sait pas pourquoi. Et ça faisait des semaines qu'il n'était plus là avec les Mysterio. Puis Murphy qui finit tout seul, ouais, bon, c'est. Je boude, je boude.
Bon, bah désolé papy, alors je te laisse bouder dans ton coin, je te rappelle dès qu'on passe à notre segment.
Ça me va
Mais
très bien.
moi je suis pas non plus très fan, ça va être la grande constante que j'ai eue. Alors je bon, raconte à titre personnel, pour des raisons de vacances, j'ai raté un peu les deux derniers Raw et c'est pas facile de revenir. On a vraiment l'impression là, je trouve qu'il y a une espèce de mélange de tout en fait, c'est-à-dire c'est un bordel, c'est un chaos. Alors des fois c'est bien le chaos, hein, c'est un peu chiant quand tout est trop carré, tout trop organisé. Mais là, ouais, ça mélange tout. Alors, il y a Rollins qui est en feud avec enfin, la famille Mysterio, plus ou moins. Ça continue, on le verra plus tard. Et puis, en même temps, qui est en bisbille avec Murphy. Et puis Andrade et Garza, ben, ils sont toujours là. Mais en même temps, leur manager est ailleurs. Alors, est-ce qu'on va découvrir finalement que Andrade et Garza s'en sortent mieux sans Zelina Vega? Est-ce qu'ils vont devenir champions sans elle? Peut-être. Voilà, les Street Profits, un coup, ils avaient les Viking Riders comme les rivaux suprêmes. Et puis, finalement, non. Enfin, ça. C'est
Les Viking
ça.
Riders, ils n'existent plus vu que Ivar est blessé au cervical. Donc, si tu as raté les dernières semaines, tu n'as peut-être pas vu ça. Il s'est blessé sur un dive. Et donc, du coup, il n'y a plus de Viking Riders pour quelque temps.
Ah, mais j'ignorais, tu vois. Mais enfin, il y a vraiment l'impression que à Raw et à la WWE en général, c'est vraiment, on avance un peu semaine par semaine et il y a des gens, une semaine ils sont sur la scène tag team, la semaine d'après ils sont. Dans le main event ou autour d'un titre intermédiaire ou en solo ou avec les filles, et ça complique vraiment la situation, je trouve, et la compréhension des différents bah, des différentes hiérarchies, tout
Ouais,
simplement.
mais c'est très vrai sur les divisions tag team. Je radote un peu parce que je suis un vieux, mais sur SmackDown, c'est le même symptôme, c'est qu'ils ont des divisions tag team totalement mortes en fait, avec des champions et personne pour venir les embêter. Enfin, quand je dis personne, c'est des gars qu'on fout là, mais pour lesquels t'as aucun espoir de les voir gagner. Et puis tous les autres, ils font autre chose, quoi. Donc, ouais, c'est deux divisions qui ont été totalement abandonnées.
Mais oui, c'est ça sert un peu de voie de garage, c'est-à-dire parce qu'on a des belles équipes en soi, je veux dire, le Hard Business est une équipe qui donne envie de voir un peu plus sur le ring. On a bah, enfin, il y avait Apollo Crews, Ricochet, tout ça, mais voilà, ces gens-là parfois sont dans la Tag Team Division, parfois non, parfois s'en foutent, c'est ça. Alors, autre chose, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Je ne sais pas. En tout cas, qui l'eût cru? On a un Kevin Owens Show avec Shane McMahon en invité. Alors ça, quand même, on est tous surpris. Et puis Kevin Owens, il est le premier surpris. Hein, il le dit. Il dit, ah bah dis donc, bon, 2020, c'est quand même un peu surprenant. Mais alors celle-là, elle est raide. Celle-là, si je m'attendais. Parce que bon, je vous rappelle que Shane McMahon, j'ai été en feud avec lui pendant des mois. On s'est mis dans une cage en fer. Je l'ai battu pour un fire match. Il a été viré. Et puis maintenant, eh ben, il est encore là. Parce que Shane McMahon, bon, ben, on le vire, mais il a des parts de l'entreprise, donc il n'est jamais vraiment viré. Bon, enfin, Shane, il n'est pas là pour ça, il est là pour faire la promo de son petit bijou, son petit bébé, là, le Raw Underground. Donc, Kevin Owens, je lui dis, ok, bah écoute, t'es un McMahon, et les McMahons, ce que ça sait faire de mieux, c'est faire de la promo. T'es un promoteur, donc vas-y, balance ta promo. Et Shane McMahon, il y va. Ce soir, on a donc les deux géants, Braun Strowman contre Dabakoto. Et puis, bah, tant qu'à faire, autant le faire venir à ce Dabakoto. Et Dabakoto débarque. Et sauf que Kevin Owens, il y a quelques semaines, dans Raw Underground, il était venu et il s'était frotté un peu à Dabakoto, il avait pris cher. Donc Kevin Owens, il le regarde droit dans les yeux et il dit, ok, petit gamin, là, c'est t'es nouveau dans l'entreprise, mais ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas voir, tu vas découvrir. Je sais pas comment ça va se passer encore ce soir, t'as ton match avec Braun Strowman, mais je t'assure, mon gars, on va y aller tous les deux, on va faire une feud, on va se bastonner. Et Kevin Owens, baf, au passage, Dabakoto. Et il en profite pour dire, eh ben tiens, et on va faire venir Braun Strowman aussi. Du coup, Braun Strowman débarque, les deux géants se toisent, mais Shane McMahon réussit à les calmer, à leur dire non, non, c'est pas ce soir, ça sera pas ici, hors de question que ça se passe sur le ring de la WWE, ça se passera dans le sous-sol, dans Raw Underground, vous allez pas m'avoir, vous allez pas me niquer mon main event. Et alors les deux Golgoths obéissent, plutôt tranquillement. Pendant ce temps, Kevin Owens s'est attaqué lâchement par derrière par Aleister Black qui lui tire les jambes pour lui faire tomber les parties contre le poteau, ça fait mal. Et tout le monde s'en fout. On entend même Braun Strowman invectiver Dabakoto en lui disant « Ouais, méfie-toi, tout ça. » Enfin, on a l'impression que tout le monde s'en fout que Kevin Owens se fasse tabasser, le pauvre. Moi, j'avais un petit peu mal pour lui sur ce segment-là. Est-ce qu'on a perdu tout intérêt pour Kevin Owens? Est-ce que là aussi, c'est pas trop tout mélangé, ces histoires de feu? Pour moi, c'est un bordel sans nom, mais papy, peut-être que tu y vois plus clair que moi, malgré ton âge.
Les feux, ça va, j'y vois clair dans les feux, mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'était bien mélangé, bien le bordel. Et effectivement, il y avait la partie du segment, il y avait le caméraman qui était fixé sur Black qui attaquait Owens. Et à côté, tu entendais les autres continuer à parler qu'on ne voyait plus, en fait. Donc, c'était. Oui. Alors, le début du segment, j'ai trouvé ça pas mal, en fait, parce que je trouvais que c'était intelligent de sortir un peu Shane de sa cave et de mettre un peu en valeur au Underground, parce que. Jusqu'à présent, ils enchaînent les segments toutes les semaines sans qu'il y ait vraiment de continuité. Là, ça donne un petit peu de continuité, un semblant de fond au match qui est prévu ce soir à Raw Underground. Mais alors, la fin du segment est complètement chiée, quoi, avec le Black qui est en train d'attaquer Owens à l'écran et Braun Strowman qui parle hors caméra. Bref, c'était bien chié comme fin de segment.
Ouais, moi ça m'a donné l'impression, genre tu sais, les deux oiseaux pique-beu qui se mettent sur la gueule sur le dos de deux éléphants ou de deux rhinocéros qui en ont absolument rien à foutre. Ouais, moi je suis un peu perdu là dans tout ça. Alors, on en reparlera plus tard, mais Raw Underground, on a toujours un petit peu du mal à comprendre où ça va, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est, tout simplement. Parce que, à part nous dire qu'il y avait un gros main event Shane, j'aurais bien aimé qu'ils nous disent pourquoi il avait créé ça, qu'est-ce qu'il y avait, quelle était l'idée derrière, hein, un petit peu plus de.
On les a vus la semaine dernière, je ne sais pas si tu avais du coup
Ah
vu.
Non, j'ai pas vu alors.
Bah, en fait, la semaine dernière, Strowman était arrivé ultra vénère en underground et pété la gueule à tout le monde. Mmh. Et à la fin, il y a Kondo là, qui était sur le côté depuis le début en fait, et qui se décide à monter pour affronter Strowman. Et c'est là où Shane dit « Non, 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 vous ne battez pas ce soir, vous battrez la semaine prochaine. » Mais donc, c'est pour ça qu'on a le main event qui est annoncé.
Ah oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le côté, la raison de Raw Underground, tout simplement.
Ah non, il n'y a pas de raison, ouais. Non, c'est juste Shane qui a une cave, et puis c'est pourquoi je foutre avec.
Mais j'ai bien aimé, en effet, qu'ils assument le côté ancienne feud avec Kevin Owens, c'est que voilà, qu'on ne fasse pas comme si de rien n'était. Là, ils ont. Ça, c'était plutôt bien joué. Bon, Kevin Owens, il a dit « Ok, c'est du passé, tant pis, c'est la WWE, Shane, il n'a pas à rajouter.
Là, puis ouais. Là, la plus promène est un peu bien amenée par Owens, disant bah, tiens, toi tu ramènes Dabakondo, bah, moi je ramène Strowman. C'est toute cette partie-là, ça allait. Puis après, une fois qu'Alistair Black débarque, alors là, c'est. Tu comprends plus rien.
Ouais,
tu
ouais.
Comprends pas ce qui se passe.
Moi, je suis très très déçu du traitement d'Alistair Black, hein, j'avoue.
Ah bah là, il est en mode pirate en plus.
Ouais.
Mais bon, je. J'ai peu d'espoir pour la suite de sa carrière à Raw. J'espère qu'il va partir du côté de SmackDown après la trade, parce que là, je pense qu'ils n'ont plus d'idée pour lui. Hein.
Mais je sais pas. Alors après, en faire un heel, c'est un très bon catcheur, Aleister Black. Hein, ça pourrait devenir vite un top heel, mais là, dans toute la feud, c'est qu'une victime collatérale de la feud de Rollins, et ça ne lui sert pas à grand-chose. Il s'énerve contre Kevin Owens, on ne sait pas trop pourquoi. Et j'aime pas trop son style de pirate, alors qu'en plus, il a perdu son bandeau à Raw Underground la semaine dernière, on sait très bien qu'il a ses deux yeux en bon état.
Oui. Bon,
C'est bizarre. Alors pendant ce temps, c'est des bordels dans les coulisses, hein, parce que depuis qu'on a ce match annoncé, Retribution, ils nous parlent, ils nous disent que voilà, le hard business, c'est une partie du problème. Ils s'achètent, ils dépensent leurs sous pour faire des belles fringues, alors que pendant ce temps, il y a des catcheurs méritants qui traînent dans le Performance Center qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils en profitent pour casser la gueule à Titus O'Neil et Humberto Carrillo au passage. Bref, ça va mal en coulisses. Après, on verra plus tard le hard business détruire quelques gars de la Retribution aussi. Ouais, bon, c'est le fil rouge de la soirée. Tout se passe en coulisses désormais.
Ouais, les deux clans vont s'affronter.
Les deux clans vont s'affronter, ça c'est sûr. En attendant, on fait un rematch de la semaine dernière. Donc, Keith Lee contre Drew McIntyre. C'était le main event du dernier Raw. On rappelle qu'il y a toujours une stipulation importante, hein, derrière tout ça. C'est que si Keith Lee gagne... Eh ben, il prend la place de Randy Orton pour l'affiche pour le titre mondial de Clash of Champions. Même si Drew McIntyre continue à la jouer, ouais, on est potes avec Keith Lee, tout ça, on va aller prendre une petite bière, mais d'abord on va quand même aller se mettre sur la gueule. Du coup, bah, ils vont se mettre sur la gueule, hein. On a un gros match entre les deux bonhommes. À l'extérieur du ring, Drew McIntyre soulève Keith Lee pour le lâcher sur la table des commentateurs. Un petit peu plus tard, Keith Lee, lui, va travailler avec son coude. Et il envoie un gros direct du coude dans la mâchoire de Drew. Hein. Drew, on y raconte toujours qu'il a quand même très mal à la mâchoire. Il tente une Spirit Bomb qui est contrée en une sorte de Hurricane Rana. Puis Drew McIntyre place un Spinebuster. Keith Lee va répliquer avec un énorme, alors je sais pas trop, d'espèce de gros choc slam là, et ça fait near fall. Il envoie dur le Keith Lee et Drew il se tient de plus en plus la mâchoire. Et puis une nouvelle Spirit Bomb est contrée, évitée. Drew McIntyre se retourne, il lance la jambe, Claymore, pouf, dans la tronche de Keith Lee. Mais l'Écossais n'a pas le temps d'en profiter. Il est attaqué par derrière par Randy Orton qui le tape avec une chaise et qui le tabasse et qui le tabasse et qui lui broie la mâchoire. Qui lui écrase la tête comme il peut. Et bon, avant de partir, il envoie un joli petit punt kick dans la tronche de Keith Lee au passage. Donc, officiellement, c'est disqualification. Donc, Randy Orton garde son title shot. Randy prend le micro. Il nous dit: Ouais, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le business et j'ai jamais reculé devant une opportunité pour un titre mondial. Il s'en va. Il va voir l'ambulance qui est à l'extérieur du ring. J'avais oublié de le préciser, mais comme on a un ambulance match à Clash of Champions, ben, il y a une ambulance. Ça fait partie du décor. Ça met un petit peu l'ambiance. Donc Drew il nous dit qu'il était dans une ambulance il y a quelques semaines là quand il a pris une série de Claymore. D'ailleurs, il a quelques séquelles psychologiques. Puis qu'il nous dit il m'en a pas mis un, ni deux, ni trois. Ouais, si en fait il m'en a mis trois. Et ben, il se dit ben, quand je suis passé dans cette ambulance, je me suis dit ah ouais. J'ai souri parce que je me suis dit ben, en fait je suis en train de vivre. Je suis en train de savoir ce que ça fait que d'être passé par le RKO et par les punt kicks. Il se dit, je suis en train de vivre ce qu'ont vécu toutes mes victimes, les Edge, les Big Show, les HBK, etc. Donc, ben voilà, il nous dit qu'une ambulance, ça symbolise beaucoup de choses pour plein de gens, la maladie, la mort, la blessure, mais que bon, pour Drew McIntyre, il y aura un dernier voyage en ambulance à Clash of Champions et un 14e titre mondial pour Randy Orton. Les trois lettres les plus dangereuses du sport business, RKO. On lâche le micro. Grosse promo, gros patron, hein, toujours Randy Orton.
Ouais, alors moi j'ai un souci avec ça, c'est qu'en fait Randy Orton, depuis qu'il s'est fait exploser par Keith Lee, j'ai beaucoup plus de mal à le voir en menace crédible en fait.
Ah, oui, il s'était fait rouler dessus, oui.
Voilà, c'est bien fait rouler. En fait, c'est la chronologie des faits me rend un peu plus mitigé sur cette rivalité en fait, vu qu'on a Keith Lee qui a massacré Orton. Ensuite, eh ben, c'est Orton qui se qualifie quand même pour le match à Clash of Champions. Entre-temps, le pauvre Keith Lee, c'est devenu la crampe. Il se prend RKO, un Claymore, un punt kick, et puis il se prend toutes les semaines, il se prend sa branlée. Et du coup, on va avoir un Orton versus Drew entre un mec qui a la mâchoire cassée et un autre qui s'est fait éclater récemment. Donc, j'ai du mal à m'enflammer pour ce club, quoi. Je pense qu'il fera quand même un bon match parce que c'est quand même deux mecs ultra sérieux. Puis ces derniers mois, ils ont quand même tenu la baraque en termes de pay-per-view. Mais ouais, j'ai du mal à m'enflammer pour cette rivalité là. J'étais tout chaud là, au niveau de SummerSlam, ils ont fait un finish tout dégueulasse. Et depuis, bah, je vais de mal en pis pour cette rivalité.
Eh ben, écoute, si jamais ça va très mal, hein, il y a une ambulance qui sera à disposition, mais bon, il risque d'y avoir du monde à l'intérieur. Moi, je crains un peu aussi parce que je suis pas un bon. Je suis pas un très grand fan de cette stipu pour laquelle j'ai plutôt des mauvais souvenirs. Je me souviens pas trop de très bons matchs là-dessus. Et ça,
Ouais, c'est souvent du Strowman ou du Kane qui tourne autour de ça, quoi. Donc c'est rarement des trucs sympas, quoi.
Oui, voilà. Mais là, j'ai du mal à voir. Comme toi, Orton gagner. Et pourtant, je trouve que. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il est tellement. Ça fait 6 mois, quoi. Ça fait depuis WrestleMania, depuis la rivalité contre Edge, qu'il est quand même en très très grosse forme, Orton. Et je me dis, bon, ben, c'est pas con non plus. Il est loin d'être en début de carrière. Il est même plutôt en fin de carrière. C'est toujours pas mal de lui donner un petit titre de temps en temps. Je sais plus de mémoire quand date le dernier titre mondial de Randy Orton. Ça doit être
Ouh,
quand
quand
il
il a pris
a.
à Wyatt, non?
Ouais, je pense, contre Jinder Mahal. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça fait quoi ça? 3 ans? 4 ans? 3 ans? Je sais plus.
Je dirais bien 2 ans peut-être. Attends,
Ouais.
l'an dernier, c'était qui? Ouais, 2 ou 3 ans, ouais,
Deux
max.
ou trois ans, ouais. Non, ça fait pas que si vieux que ça, alors. Mais je me dis, il est dans une telle forme que ça serait pas déconnant de lui mettre la ceinture. et de la faire perdre ensuite de lui faire perdre rapidement à la limite pour qu'il flippe,
Ah
mais
moi
en
j'y
même
crois
temps
plus du tout, Orton. Hein.
ouais toi t'y crois plus visiblement et c'est vrai que bah avec ce retour gagnant quand même de Drew qui est revenu l'envoyer Claymore sur Claymore ces dernières semaines, ça bon j'ai l'impression que ouais, ça va le momentum à Orton va vite retomber et peut-être qu'il va repartir en feu de secondaire contre Keith Lee pendant que Drew, je sais pas qui viendra taquiner Drew derrière, mais
Bah,
ouais.
Kisly, du coup. Moi, j'imagine bien Kisly qui va quand même aller chercher Drew à un moment, quoi.
Ben, ça serait pas mal, mais alors là, on a quand même des. Je trouve qu'on a des sérieux problèmes d'alignement aussi en ce moment. Des face, des heal, on sait plus trop qui est qui. Et de répartition des hiérarchies, mais bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça donnera un bon match. En tout cas, là, c'est là, quoi. Maintenant, il n'y a plus de. Plus d'autres échappatoires, plus d'autres Monday Night Raw, il va falloir y aller pour ce match ambulance.
Okay. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est les Survivor Series, le prochain pay-per-view d'après, ou il y a encore un truc entre deux? Peut-être Elimination
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 Cell, peut-être.
peut-être, entre deux, ouais.
Je connais pas le planning, je sais pas s'il a été dévoilé. De tête, Survivor Series, c'est fin novembre, hein, mais donc il y
Ouais,
en aurait.
alors, ouais, il y en a peut-être entre deux, parce qu'effectivement, les séries sera peut-être là où ils vont. Encore, ils sont que trois à Retribution. Ouais, je sais pas, j'ai plus d'idée.
On verra. Écoute, si, ce qu'on peut faire, parce que si on aimerait bien avoir un job de booker à la levée, on peut aller péter des parpaings. On peut aller, je pense qu'on peut demander à tonton Chris, il sera chaud. On peut aller péter quelques parpaings à Stanford, et puis si on fait ça quelques semaines, on sera engagé comme booker de
Ouais,
la
je pense,
WWE.
il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est marrant, parce que les dernières semaines ont été plutôt satisfaits. Enfin, en tout cas, je suis content aussi, c'est le cas. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils se retombent dans leur travers rapidement, quoi. Dès qu'on ne regarde pas la WWE, ils font une connerie, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, on va lancer une cagnotte pour qu'on puisse partir aux États-Unis et aller se faire engager comme booker de la WWE. Voilà.
C'est parti.
Cher public, vous pouvez envoyer vos dons. Merci. Et en attendant les sous, en attendant le pognon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore pas mal de choses. Asuka, en coulisses, parle japonais, comme d'habitude, à l'intervieweuse, à Sarah. Elle est interrompue par Billie Kay, qui lui propose un challenge. Et puis en fait, Peyton Royce vient un peu lui voler la place. Donc du coup, on aura un match Peyton Royce contre Asuka ce soir, sachant que Asuka, elle attend d'avoir une challengeuse elle aussi pour son titre mondial, pour son titre de championne féminine de Raw. Ça semblait parti pour être Mickie James ces dernières semaines, mais Zelina est revenue sortie du Diable Vauvert, donc on a un affrontement Zelina contre Mickie James, un affrontement dont tu vas nous parler, papy, je sens, avec avidité.
Avec passion.
Avec passion, donc au début, Zelina Vega réussit à prendre le dessus avec Octopus Submission sur Mickie James. Il y a une série de roll-up contrées un petit peu ratées, foirées. Zelina fait une sorte de 619 qui finit en soumission avec les jambes autour de la tête de Mickie James dans les cordes. Bon, on est essentiellement sur de la soumission hein, pour Zelina Vega, ses tentatives de torsion et tout ça. Et puis à un moment donné, elle place un backstabber à la Carlito, à la Alberto Del Rio, poum, sur Mickie James. Et puis, bah, elle gagne 1, 2, 3 victoires. Donc la challengeuse s'appelle Zelina Vega contre Asuka. Là, on est dans le worldwide. Hein. Mexico contre Japanese style. Est-ce que ça te. Dis-nous tout, est-ce que ça t'emballe?
Ah non, là j'ai eu un violent retour en arrière en regardant ce match. Je suis reparti à l'ère des divas avec des matchs qui sont quasiment 100% botchés, avec des prises qui n'ont ni queue ni tête, notamment effectivement cette prise dans les cordes où Zelina fait une espèce, effectivement, comme tu le décris bien, un 619 et puis bah en fait qui arrive dans le vide. Et puis du coup, t'as Mickie James qui se coince volontairement le bras et la tête entre ses jambes, histoire d'avoir l'air d'avoir une soumission, parce qu'elle crie des gens en disant ah, alors qu'elle ne le touchait même pas. Mais non, c'était affreux, quoi. C'était pas bon du tout. La pauvre Zelina, qui était déterrée pour trouver un adversaire à Asuka, je pense qu'on leur a filé le pire adversaire possible, là. C'est une adversaire qui. Mickie James. Enfin, les deux, en fait, ensemble, elles ont sorti tout ce qu'il fallait pas, quoi. Elles ont. Ouais, c'est ça. C'est un match d'une autre époque, en fait.
C'est
Et
un peu ça.
je sais pas quoi dire d'autre. J'ai été désespéré en regardant ce match-là. Je sais qu'avec Asuka, ça sera bien mieux parce qu'Asuka, elle a vachement plus déjà de talent, mais aussi d'expérience, on va dire, dans le nouveau catch féminin. Mais là, j'étais désespéré.
Mais en tout cas, on annonce subtilement à la fin de ce match que l'affrontement de Clash of Champions se fera partie du kick-off, donc ça sera pas non plus.
Ah bah je le verrai pas du coup, c'est bien.
Voilà, tu le verras pas. Ça fait partie du kick-off, donc tu pourras t'infliger, tu pourras t'éviter ça. Mais alors, grande question, pourquoi Zelina, effectivement, hein, in-ring, on l'avait jamais trop vu, mais ça a pas l'air d'être du haut niveau. Ces dernières semaines, il semblait avoir déterré un petit peu Mickie James. Alors, est-ce qu'ils ont changé d'idée en cours de route? Est-ce que je sais pas.
Ouais, on sait pas trop, effectivement. Là, ils étaient en train de faire le tour du roster. Alors, d'un autre côté, j'essaie toujours de défendre les filles parce que je trouvais qu'ils essayaient de reconstruire une division en mettant une équipe tag team avec Naya et Shayna Baszler, en ressortant bah, Lana et Natalia, même si je suis pas fan, et les Riot Squad, même si je suis pas fan non plus. Au moins, ils essaient comme de reconstruire quelque chose avec elles. Là, bah, du coup, il restait plus grand monde pour les individualités. Alors peut-être si ils auraient pu ressortir la madame la EST
Bianca Belair, bah elle fait des petites clips
Bianca
là.
Belair, ouais, qui aurait pu revenir effectivement. Là elle fait des clips en attendant, mais alors du coup il restait plus grand monde. Donc Mickie James, bah finalement ils avaient réussi à me convaincre à peu près lors de la présentation du match de la semaine dernière. Alors, tu vois, j'étais pas en bas à l'avant, et là Zelina, bah, il restait plus qu'elle, j'ai l'impression qu'ils l'ont foutu là. Mais voilà, je comprends qu'ils essaient de reconstruire une division féminine en remettant, en faisant un peu tourner tout le monde, en donnant du temps d'antenne. Mais là, c'était vraiment pas la bonne solution de les mettre l'une contre l'autre. C'était vraiment pas bon, quoi. Donc,
Ouais,
je pense que ça sera un match pour rien à Clash of Champions. Je me ravis en disant qu'ils se passent en pré-show. Au moins, j'aurais pas à m'infliger ça.
Et ben voilà, une bonne nouvelle au moins ce soir, la première de la soirée. Ouais, c'est peut-être cette division tag team féminine en fait, hein, qui fait un peu chier, hein, qui occupe trop de gens.
Oui, alors après, voilà, moi je suis plutôt. J'ai moins de griffes contre Shayna et Nia Jax. J'attends de voir ce que ça donne à deux. Elles ont réussi un poil à éveiller mon intérêt.
Ah oui, moi j'ai bien aimé leurs affrontements contre Bayley et Sasha Banks, mais c'est vrai que ça crée forcément un déséquilibre dans les, on va dire, chez les filles en individuel. Du coup, il reste ouais, le tour est vite fait, hein, c'est impressionnant.
Yes.
Allez, une autre bonne nouvelle, papy, prends ton maillot, je t'emmène à la plage.
Youhou!
C'est parti. Donc le gros clip de ce milieu de Monday Nitro, c'est nous partons à l'océan. R-Truth y est en compagnie de son Little Jimmy qui est sorti du néant et sa baby, sa 24-7. Donc ils arrivent sur la plage, mais en fait sur la plage il y a Tozawa et un ninja arbitre qui se cachent sous l'eau en apnée pour pas que R-Truth les voie. Sauf qu'en fait sur cette plage il y a aussi un requin. Donc R-Truth, il se barre un peu quand il voit qu'il y a un requin, il perd sa ceinture qui part à l'eau et puis après il revient la chercher et puis il trouve un vieux t-shirt tout déchiré de ninja. Donc ce qu'on pourrait en conclure, c'est que Tozawa s'est fait bouffer par un requin. Mais alors est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou est-ce que c'est un subterfuge très malin pour nous faire croire qu'il n'y a plus de danger? Est-ce qu'un requin peut être un arbitre? Est-ce que tu as au moins esquissé un pâle sourire devant ce segment, papy, ou qu'est-ce que tu en as pensé?
Non, j'ai fini de me mettre la tête dans le mur suite au match féminin. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire, mais je suis pas loin de penser que c'était encore pire ce segment 24-7 imbitable avec Arthur, c'est Little Jimmy et la ceinture à la plage et le requin. C'est même pas what the fuck est en disant ah oui, c'est vraiment n'importe quoi, qu'est-ce qu'on se marre là, c'était qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qui fait Tozawa aller dans l'eau avec un arbitre pour se cacher? C'était plus tellement débile que c'était trop débile. Voilà, je peux pas dire plus.
Bon, ben, je suis d'accord, on va passer très vite parce que j'ai trouvé ça nul. Déjà, ça m'attriste un peu qu'on ressorte le truc du Little Jimmy et de Hartrouf qui parle à un personnage invisible là. Et puis en plus, ouais, ce truc de. Je sais pas, il se
Et
cache sous
monter avec
l'eau.
les pieds, c'est tout pourri, hein, franchement.
Ouais,
Oh
c'est
là
mal
là.
monté, c'est pas très bien joué, on comprend rien. Moi, au début, je crus que le requin, c'était genre un faux requin. Que les Japonais avaient envoyé pour déconcentrer Atrouf et qu'ils allaient venir lui placer un petit pin par derrière, mais non, même pas, c'est censé être un vrai requin, enfin bref. Et puis ça continue à donner mauvaise réputation aux requins, et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, les requins
Nos
sont nos
amis.
amis, exactement. Voilà. Donc, on passe très vite sur cette... Ouf, ça, on aurait largement appelé ça le Jobber's World, le Jobber's Beach. Et nous arrivons à un match de catch, enfin un vrai, un beau... Cédric Alexander qui affronte Apollo Crews, donc avec d'un côté le hard business et puis de l'autre bah, plus que Ricochet. Hein. Au passage, juste avant MVP, il défie, voilà, il reprend le micro pour vraiment défier Retribution ce soir pour un 3 contre 3. Apollo et Ricochet, ils arrivent, alors ils sont un peu deck de Cédric Alexander, ils disent on veut même plus savoir pourquoi tu fais ça, on veut juste te taper. D'accord, bah, c'est très bien, c'est du cas.
Ils ont raison.
Apollo commence par dominer Cédric Alexander, mais MVP très vite, il récupère son poulain, il le ramène dehors pour le protéger un petit peu. Sauf qu'Apollo Crews, il part, vous, les dropkicks, les deux jambes en avant sur Cédric Alexander. Ensuite, au milieu du ring, Alexander domine Crews, mais plutôt en le tenant au sol avec des clés à la tête et tout. Apollo Crews fait un frog cross body depuis le turnbuckle. Il enchaîne avec un Samoan drop, ça fait near fall. Cédric Alexander, dehors, va faire un suicide dive sur Apollo Crews. C'est ce qui lui permet de reprendre la main. Il ramène Crews au milieu du ring. Et puis là, il croise Ricochet. Et il le trash talk un petit peu. Ouais, comment tu vas? Ça va, toi? Tout ça, comme ça. Et puis, bah, quand il remonte sur le ring, forcément, il prend le tombé. Il prend une espèce de petit roll-up pourri, comme d'habitude. Victoire d'Apollo Crews. Mais ils n'ont pas trop le temps de pavoiser, les deux copains, puisque tout le hard business vient les taper, hein, à Crews et à Ricochet. Il y a une belle full Nelson sur Apollo Crews, qui, rappelons-le, est challenger quand même au titre de Bobby Lashley, au titre US. Donc c'est l'affiche qu'on aura à Clash of Champions. Voilà, bon, il y a une trahison au milieu de tout ça. Est-ce que ça brise ton petit cœur? Est-ce que ça t'intéresse, ce match, cette revanche entre Apollo Crews et Bobby Lashley, ouais, pour dimanche?
C'est m'intéresser sera peut-être un grand mot.
Ouais, peut-être.
Encore une fois, en fait, je me répète pour ce Raw, mais c'est souvent le cas finalement. C'est encore une fois un match qui m'a intéressé à une époque et qui, bah, par la force des choses, puisqu'en fait le World Business s'intéresse vachement à Retribution et quasiment plus à Apollo et à Ricochet, qui du coup, bah, Apollo, j'avais même pas tilté qu'il était challenger officiel à la ceinture.
Moi non plus.
Donc, le match entre les deux, ça sera un bon match. Je pense, j'ai pas de doute là-dessus, parce que c'est plutôt en plus de personnes que j'apprécie dans le ring. Mais j'ai pas envie de les voir à ce moment-là, quoi. Je sais pas. Le temps est passé pour leur rivalité. Là, le Hard Business, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus rien à foutre de Ricochet et Apollo Crews. Donc, je sais pas ce qu'ils foutent là, quoi.
Moi aussi, je trouve qu'il fout le cafard là, Apollo Crews, à vouloir encore un title shot. Je pense que son temps est passé là, malheureusement. Mais après, sinon, sur le ring, j'ai bien aimé Cédric Alexander, tout ça. Et je suis pas mécontent que Cédric Alexander ait rejoint le hard business, même si c'est un peu triste pour Ricochet, qui va devoir se relancer ailleurs.
Mais je trouve ça bien, moi aussi, que Alexander, ouais. C'était. Alors, je me suis demandé avant si c'était pas Ricochet qui allait faire l'arnaque à Lub à ses côtés heel et Alexander côté face. Bon, c'est Alexander côté heel. C'est pas plus mal. C'est un catcheur qui est là depuis quelques années maintenant et puis qui avait du mal à s'imposer. Voilà quoi. Je ne sais que dire de plus. Mais c'est en fait c'est ça. Ce qui me perturbe. Moi, j'ai absolument rien contre leur business. Au contraire, c'est de mes grosses satisfactions. Mais par contre, là, la rivalité avec Crews et Ricochet, elle tombe un peu comme un cheveu sous la soupe. Même si elle est là présente depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'elle était plutôt en train de terminer que redémarrer, quoi.
Ah oui, moi j'ai l'impression qu'ils se sont emmerdés tout seuls à appeler ce pay-per-view de septembre Clash of Champions et à se dire putain merde, il faut que Bobby Lashley ait un match, mais c'est la fin, quoi. On tire sur la corde pour Apollo Crews, mais c'est fini, mon gars. Hein. Je pense que tu la reverras plus, la ceinture US, de suite. Hein.
Je suis d'accord avec toi.
Mais il est l'heure de partir un petit peu dans la cave. Alors, Raw Underground, ce soir, il y a des gros matchs et on commence de suite. Il y a Dolph Ziggler qui a été là. Alors, je n'ai pas noté le nom de son adversaire. Mais en tout cas, Dolph Ziggler gagne un match assez intense sur sa sleeper hold qui revient un peu au goût du jour. Braun Strowman est interviewé par Shane, enfin plutôt par la nouvelle intervieweuse qui est à Raw Underground, Brianna. Il est très très vénère, il dit que bon, en gros il va détruire tout le monde et même Shane s'il veut il va péter la gueule. Enfin voilà, il est très vénère, on résumait ça comme ça. Voilà un court passage, je sais pas si tu veux en dire quelque chose, papy, de ce...
Non, rien de spécial. Donc... Alors l'adversaire de Ziggler c'était le mec qui s'est passé pour un mec de MMA brésilien, Ruas, un truc comme ça. Ouais. Et là, ouais. Sinon, ouais, non, mais je trouve ça. Bah, Shane, j'ai l'impression qu'il lance sa propre intervieweuse qui me semble être une fille du Performance Center qui était sur le côté. Mm-hmm. Mais voilà, c'est une rien de spécial à dire, non.
Oui, on remarque que c'est toujours un peu les mêmes hein, qui reviennent au Raw Underground. C'est toujours Ziggler, c'est toujours Eric qu'on verra plus tard. C'est assez étonnant parce que Ziggler est booké très fort toujours, je trouve, quand même à Raw Underground. Alors est-ce qu'il va revenir se refaire la cerise, enfin est-ce qu'il se refait la cerise là pour revenir faire quelque chose dans le main roster? Moi, je serais pas contre. C'est assez étonnant, je trouve, qu'il ait ce gimmick de bagarreur de rue presque. Ça lui va pas si mal en fait, mais ça tranche un peu avec son plutôt son, sa gimmick plutôt de loser de ces derniers mois, clairement, puisque bon, voilà, il n'a pas gagné
Ouais.
grand-chose.
Ouais, alors, si jamais il en ressort quelque chose, je serais le premier
Ouais.
avis. J'ai beaucoup de mal à croire à ça parce que Raw Underground, j'avais l'impression qu'ils ont du mal à ressortir quelque chose. Mais ouais, après, vu son pédigré par rapport aux autres personnes qui y vont, moi ça me rassure un peu qu'il gagne quand même quelques matchs Dolph Ziggler là. Ça ferait chier qu'il se fasse marcher dessus par les gars. C'est même pas les bons gars d'NXT, c'est les sous-gars d'NXT, quoi. Donc.
Oui, c'est sûr. Alors, nous attaquons à un segment d'émotion. Est-ce que tu es prêt, papy? C'est un
Je sens
drame
que je
familial.
pleurais.
C'est un drame familial qui va se jouer sous nos yeux. Seth Rollins arrive. Alors, il a une enveloppe à la main. Il nous explique qu'il depuis des mois, donc il est en feud avec la famille Rey Mysterio. Ça, on était au courant. Et depuis des mois, bah, il sent qu'il y a un truc, il y a une embrouille, quoi. Il y a une arnaque, il y a un truc qui va pas. Et il comprenait pas quoi. Et puis il a regardé WWE.com et il a trouvé une photo de la famille Mysterio. Et il s'est rendu compte que Dominic Mysterio était beaucoup plus baraque que son papa, dis donc. Je sais pas si tu t'étais rendu compte, c'est vrai que cette photo est révélatrice hein, quand même.
Ah bah effectivement, c'est moi dès que je vois un fils qui est plus grand que ton père, je me pose des questions.
Voilà, ben donc il se pose des questions et. Et d'après lui, voilà, c'est Frolin, il y a peut-être un souci dans la génétique familiale. Du coup, il invite toute la famille Mysterio à venir le rejoindre et bah, ils débarquent, hein, ils débarquent tous. Seth Rollins, il leur dit qu'il a le résultat d'un test ADN. Alors il dit, ok, ça a déjà été fait, mais bon, la science a progressé. Voilà, on est en 2020. Maintenant, il y a peut-être eu des erreurs dans le passé génétiquement de tests et puis maintenant, c'est mieux. Alors, Rey Mysterio, il est un peu vénère tout en comprenant pas trop. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux nous faire faire encore? Là, c'est quoi ton embrouille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Seth? Tu nous réveilles pour ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, eh ben, Seth Rollins, il lit le résultat du test et il nous dit, Rey n'est pas le père de Dominique. Et il rigole. Rey Mysterio, il dit, bon, ok, ouais, d'accord. Bon, enfin, ça, on nous a déjà fait le coup. On commence à connaître la chanson. Ça va Qu'est-ce que tu veux nous dire derrière tout ça? Et puis finalement, alors Seth Rollins, il dit, ah non, mais en fait, je me suis peut-être trompé parce que j'ai demandé à mes. On sait pas trop, il a des contacts dans les laboratoires pharmaceutiques,
Oh là
sûrement.
ouais, un cousin certainement.
Ouais, je leur avais demandé de regarder les enfants Mysterio. Alors du coup, bah, c'est peut-être Aaliyah qui n'est pas la fille de Rey Mysterio. Parce que Aaliyah, il nous passe un clip, Seth Rollins, la semaine dernière, quand il y a eu le match en cage entre Rollins. Et Dominique Mysterio, à la fin du match, elle est montée sur le ring avec sa famille, mais elle a vu Buddy Murphy complètement éclaté et elle lui a un petit peu caressé la tête, un petit geste de compassion. Et donc Seth Rollins lui dit, mais ça, c'est pas ta fille, Rey. C'est pas un enfant Mysterio ne fait pas ça. Alors Rey Mysterio il dit, bah attends, moi je l'ai élevée comme il faut, ma fille, ok. Elle a de la compassion, elle a de l'humanité. Et puis c'est qu'une petite gamine de 19 ans, elle est encore naïve, elle connaît pas trop bien le boulot. Alors là,
C'est quoi
Aaliyah.
la vie?
Ouais, elle sait pas trop c'est quoi la vie. Aaliyah, ça la vexe. Hein. Crise d'adolescence, elle nous fait quoi? Je suis qu'une gamine? Ok, je me barre dans ma chambre. Donc Aaliyah, elle se barre. Du coup, bah, Angie la suit. Et Ray aussi. Et puis, bah, Dominique aussi. Hein, tout le monde se casse. Seth Rollins, il nous dit, ah, oh, je suis désolé. C'était vraiment pas mon but de faire ça. Mais ça arrive dans toutes les familles. Ça arrive peut-être même. Il regarde le public, enfin le faux public, mais il nous regarde à la caméra. Il dit, ça arrive peut-être même dans votre famille. Et il s'en va. Est-ce que papy, c'est arrivé dans ta famille? Et est-ce que tu comprends le déchirement que vit la famille Rey Mysterio?
Oui, j'espère qu'on va pas faire un test d'ADN familial pour savoir que tonton, papy, tout ça, on n'est pas tous de la même famille. Ça serait une grosse surprise pour la famille Ketchup, je pense,
Ah ben
d'apprendre
oui.
que je ne suis pas leur papy.
Ben oui.
Mais ouais, alors c'était, tu l'as très bien raconté. C'était tellement gros que finalement, tu vois, ça va. Enfin, en découpant le décret, ça me fait plus sourire que finalement le segment du requin à la con avec Arthur. parce que c'était tellement gros et c'est tellement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher le test à dette? C'est débile, comme ils disaient, mais c'est débile. Et là, en fait, le mystérieux l'a plutôt bien joué en disant qu'effectivement, bah, c'était débile, quoi, que personne n'y croyait. Enfin, ils ont bien joué. Enfin, heureusement qu'ils n'ont pas fait style Rey Mysterio qui a le doute, quoi. Alors là, ça aurait été le catastrophe complet. Alors, je dis pas non plus que j'étais fan de ce segment. Franchement, les tests ADN, c'est vu. En vue, j'ai une enveloppe. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans mon enveloppe? Oui, alors ta fille tape sur l'épaule d'un adversaire, donc forcément, c'est pas ta fille. Génétiquement, oui, c'est d'une logique imparable. Et puis, alors, à la fin, le Seth Rollins qui se tourne à la caméra en disant méfiez-vous, ça pourrait arriver chez vous. Je suis désolé de vous mettre cette idée en tête. Oh là là, c'était cheap, mais voilà, on va dire que je vais être positif pour une fois. Je pensais que c'était volontairement nul à chier et que du coup, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, voilà, ils ont voulu faire un truc volontairement pourri et pour le coup, ils ont réussi. C'était vraiment pourri. Bravo, bravo, vous avez réussi votre coup.
Bravo, oui, bah c'est du troll. Moi, au début, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur qu'on parte, comme tu dis, sur une faute de paternité ou je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est Rollins qui troll. Moi, ça m'a fait penser à quand AJ Styles était censé avoir son tableau de statistiques mathématiciennes et tout pour avoir un challenger et qu'en fait, il nous sortait un tableau vide. Voilà, c'est un peu du troll parce que honnêtement, je ne connais pas de test ADN à qui tu dis d'analyser les enfants du père et qui te dit c'est pas le père, mais sans dire qui. C'était un bordel cette explication.
Non, oui, mais c'était voilà, très trollesque en fait.
Oui, c'était pour moi c'était Seth Rollins qui improvisait au fur et à mesure face à Rey Mysterio en disant non, visiblement ça marche pas que je mette le doute avec le fils, on va prendre la fille, tiens, elle est petite toute sage mignonne derrière, elle dit rien. Et effectivement, bon, ça a créé un début de petite tension. Écoute, on va de suite expédier la suite à ce sujet. Et effectivement, un peu plus tard dans les coulisses, on voit Rey Mysterio, la famille Mysterio qui se dispute. Aliya, elle dit, écoute papa, attends, moi je suis là pour encourager Dominique. Je vous ai vu vous faire taper par Rollins, toi, Dominique, tout ça. On a donné des coups tous ensemble à Murphy. Et puis après, maintenant, je suis qu'une petite gamine naïve de 19 ans. C'est bon, quoi, ça va, quoi. Je me casse dans ma chambre, ok, je vais aller écouter de la musique à fond la caisse.
En plus, t'es même pas mon père. Hein.
Et puis en plus, t'es même pas mon père. Et par contre, un peu plus tard, la petite Aliya, elle croise Murphy qui lui dit, qui fait vœu de repentance, qui lui dit, écoute, si je t'ai fait du tort à toi et à ta famille, c'était sous l'influence de Rollins, donc excuse-moi. Et la petite Aliya, on sent que son petit cœur d'adolescente est chamboulé et qu'elle va coller des photos de Murphy partout dans son petit carnet intime. Alors voilà, une histoire d'amour entre un Australien et une mineure, puisqu'elle est mineure aux États-Unis. Angie, est-ce que tu achètes ça ou est-ce que tu penses que ça va s'arrêter là?
Voilà, un Australien de 30 ans qui va aller débaucher de la petite jeunette américano-mexicaine. On dirait, ça va le petit jeune, hein? Ouais, bon. Comment dire? Je ne suis pas contre finalement ce petit truc de dire Angie, on n'a pas réussi à corrompre le fils Dominique, on va essayer de tourner la tête à Angie. Toute la partie avec le test ADN, ça ne servait à rien finalement. C'était juste c'est du méga troll qui ne voulait rien dire. C'était rallonger la sauce. Attendons de voir la suite. Je ne jette pas tout la poubelle, mais je sens que c'est grand guignolesque comme histoire.
Ah oui, ça promet. Alors peut-être que Aliya, dans 3 mois, sera sur le ring en tag team avec je ne sais pas qui, avec Zelina Vega peut-être.
Peut-être. Hein, peut-être qu'elle va effectivement rejoindre le clan, ou elle sera dans leur coin en espèce de Sister Abigail version Rollins. Ça sera sa petite sa muse.
Ouais, elle est encore un petit peu jeune, je pense légalement même pour travailler, mais disons que moi, ce qui pourrait être vaguement intéressant, c'est une sorte d'histoire comme quoi Ray, il a encouragé son fils, il porte son fils, il a vu son fils grandir, et par contre à la petite, il fait comme tout papa, il voit pas sa petite fille grandir, il la prend un petit peu de haut et tout, mais je vois pas catchesquement ce que ça peut donner, surtout que, encore une fois, tout ça est très mélangé, parce que voilà, Rollins, il est quand même un petit peu... accaparé par son ancien disciple là, donc est-ce qu'ils vont se retrouver sur le ring, c'est ça? Il a battu Dominique en cage, est-ce que ça veut dire qu'on continue la feud là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de catch entre tous ces gens ce soir-là? Enfin, Dominique a catché mais un petit peu avant, donc on verra bien. C'est mystérieux chez les mystérieux.
Yes, attendons de voir la suite.
Attendons de voir la suite. Alors, en attendant de voir toute la suite, on repart sur une division que tu affectionnes donc. Tu nous le disais tout à l'heure, la tag team féminine. Donc, Nia Jax et Shayna Baszler affrontent la Natalia. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler.
Ça passe.
Aux commentaires, on a les Riot Squad qui sont déguisés en arbitre ou en comment il s'appelle là,
Beetlejuice, hein.
Beetlejuice, voilà, je sais pas trop quoi, tout en rayures noires et blanches. C'est les futures challengers hein, pour dimanche. Sauf que Baszler, elle détruit Lana en 1 minute, je crois. Lana, elle tape out très rapidement. Et ensuite, les championnes, elles descendent du ring pour essayer d'attaquer les challengers aux commentaires. Sauf que finalement, Lana traînant encore par là, Samoan drop sur la table des commentateurs. Nia Jax, boum, Lana, ça dégage. Est-ce que, bon, je pense qu'on a aucune hésitation sur le pronostic pour le match de dimanche. Bon, voilà, il y a Jax et Baszler qui auront au moins un intérêt dans cette division, je trouve. Je sais pas ce que
Ouais,
tu en
voilà.
penses.
En tout cas, j'espère qu'elles vont garder la ceinture, quitte à aller la défendre dans d'autres shows derrière, un peu comme faisait Sasha et Bayley. Je pense que ça sera intéressant. Et puis, bah, Lana, bah, c'est la bizarre Rousseff. Hein. Toutes les semaines, elle va se faire humilier, j'ai l'impression maintenant. Donc, cadeau. Fallait pas aller à la IW.
Oui, c'est peut-être ça. Bon, en même temps, est-ce que Lana sur le ring, elle peut pas faire peut faire vraiment autre chose que ça? Je ne suis pas sûr.
Non, j'en sais rien. Mais par contre, en tout cas, celle qui prend les Salmon Drops sur la table, et c'est jamais Natalia, quoi. C'est juste ce que je remarque.
Oui, c'est possible. C'est possible, effectivement. C'est peut-être un petit coucou au passage. Bon, on verra bien le match de dimanche. Effectivement, je pense que les championnes vont rester championnes. Ils nous créent des tensions entre elles, mais elles sont championnes quand même. Bon, c'est les plus intéressantes, c'est sûr. Après, Natalia, Lana et puis même les Riot Squad, c'est de la low card quand même de très bas niveau.
Oui, c'est menu fretin là. Et moi, j'attends de voir si, du coup, après qu'elles aient conservé, s'ils vont réussir à développer un peu leur dynamique avec leur personnalité qui s'oppose, etc. J'aimerais bien voir des petits segments un peu plus, voir micro, voir catch entre les deux et les voir aller à NXT, à SmackDown. Voilà, j'ai envie qu'elles se baladent, les filles là. Allez,
Une petite.
allez, allez, faites le, allez faire le bordel partout.
Ouais, ça, bon, ils ont moyen d'aller casser des tronches, ça c'est sûr.
Yes.
Et il nous reste quoi? On approche doucement de la fin. Alors, Drew McIntyre est à l'infirmerie avec une bonne petite glace sur la mâchoire parce qu'il a mal. Mais bon, bah, il nous dit qu'il sera bien là dimanche et que ça sera un no rules. Donc, il va pouvoir faire ce qu'il veut de Randy Orton. Et puis, il se lève en disant là, j'ai envie de péter des gueules. Donc, on ne sait pas trop où il va, mais il s'en va, il est vénère. La suite, ben, Raw Underground. Alors, donc Riddick Moss affronte Eric, la moitié des Viking Riders qui est pas blessé. Et c'est Riddick Moss qui gagne avec un gros direct du droit dans la mâchoire. Et à nouveau, donc Shane McMahon avec sa petite intervieweuse, là, essaie d'interviewer Dabba Kotto qui lui aussi, comme Braun un peu avant, est très très vénère. Donc, on va avoir un match de très très vénère.
Voilà.
Avant qu'on ait ce match, il nous reste un autre affrontement sur le ring. C'est Asuka qui affronte donc Peyton Royce. Un affrontement très rapide de quelques minutes qui sera interrompu par Zelina Vega qui attaque Asuka mais qui n'arrive pas à mettre KO Asuka. Et quand la japonaise se relève, bah, finalement Zelina elle s'enfuit. Bon, histoire de nous faire croire que Zelina a une chance, mais Zelina a-t-elle une chance?
Non, ouais, c'est pour le coup, j'ai du mal à être hypé pour ce match-là. C'est encore un match de Clash of Champions qui semble booké pour dire d'être booké, quoi.
Ouais, bah clairement. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont sentis obligés de mettre toutes les ceintures parce qu'ils ont dit que c'était Clash of Champions, mais ils auraient pu réfléchir avant et appeler le pay-per-view, je sais pas moi, Unforgiven ou machin comme ils font des fois là.
Mon cul sur la commode, et puis voilà, c'est
Voilà, et
parti.
ça serait passé. Et il n'y avait pas du tout besoin de sortir des matchs là, mais bon, ça sort un petit peu de nulle part là, Zelina Vega. Bon, allez, on a le main event, mais le main event de Raw Underground. Est-ce que tu es prêt, papy? Est-ce que tu es dans la cave?
Oh là, je suis prêt, je sens qu'il va pas falloir cligner des yeux.
Eh ben effectivement, Dabba Kotto contre Braun Strowman. Alors honnêtement, moi j'avais quand même de la curiosité parce que Braun, bah, c'est Braun, on le connaît. Mais ce Dabba Kotto, en fait, ça fait plusieurs semaines que ma théorie, c'était vraiment qu'ils avaient créé Raw Underground rien que pour lui, en fait. Comme quand ils avaient reformé la Wyatt Family rien que pour Braun Strowman. Là, je m'étais dit, est-ce que tout ça, c'est pas fait juste pour nous introduire ce gars-là?
Eh
Et
bien.
eh bien, pas tout à fait, en tout cas pas ce soir. Puisque, de toute façon, les matchs à Raw Underground sont toujours très très rapides, évidemment. Ils commencent à se mettre quelques droites, ça roule un peu à l'extérieur du ring, ils en profitent pour taper un jobber qui passe. On remonte sur le ring, Braun Strowman met une grosse droite à Dabba Kotto, puis le tabasse, et ben il gagne. C'est Braun Strowman, on chronomètre même pas Raw Underground, c'est même pas du catch, donc en même pas 2 minutes, voilà, Braun a détruit l'autre géant, et c'était pas très bon, et tout ça pour ça. Et alors Shane, il a toujours l'air content de ce qui se passe à Raw Underground. Donc oh yeah, ah yeah, ok, oh he's winning, oh yeah, ok. Mais toi, est-ce que ça t'a fait lever un sourcil, lever ton siège, lever tes interrogations? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Non, bah non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, tout ça pour ça. Donc voilà. Ils en ont fait en plus des matchs qui duraient sur plusieurs segments. Enfin, ils ont quand même pu trouver une astuce pour l'allonger le match, mais non, c'était tout ça pour ça. Dabakoto, il est KO directement. Tu vois, c'est terminé. Bye bye.
Ouais, ça va être dur pour lui de s'en relever. Alors après, peut-être qu'il va aller feuder Kevin Owens pour se refaire un petit peu la cerise. Mais bon, Braun Strowman est dans les séquelles de tout son été un peu difficile, mais il est toujours aussi destructeur. Alors, tu m'as informé backstage en coulisses que c'était pas un transfert officiel de Raw, que je croyais, j'avais pas suivi. Donc après, est-ce qu'il peut aller se retourner à SmackDown? Est-ce qu'il se sentirait pas bien en Raw? Il pourrait avoir sa place, hein, Strowman, quand il y aura plus Orton contre Drew McIntyre, ça pourrait faire une belle affiche, ça, mais.
Peut-être, ouais, alors BD Drew McIntyre, ouais, ce serait pourquoi pas, tu vois, ça serait peut-être une bonne idée parce qu'effectivement, à SmackDown,
C'est bouché,
hormis
hein.
redevenir face, et parce qu'il n'est plus vraiment face, ce Roman, là, depuis quelques temps, enfin, on ne
Ah
sait
bah
plus ce
non.
qu'il est, de toute façon, et aller chercher Roman Reigns, ou non, puis en plus, Roman Reigns, ce Roman, c'est vu et revu, hein, donc
Ouais.
ouais, pourquoi pas. Tu vois, là, tu m'as éveillé à plus d'intérêt que ce Raw, en évoquant cette possibilité.
Ben voilà. Du coup, tu me mettras une note à la fin et puis un petit top et un
Tout à
flop.
fait.
Voilà. Donc, ben moi, c'est ce que j'avais pensé en fait. Ces 2 semaines où j'ai pas suivi Raw, mais j'ai juste lu les résumés en accéléré un peu comme ça, je me suis dit, tiens, ils l'ont drafté et ça peut être une bonne idée. Après voilà, donc ils utilisent Raw Underground pour le garder un peu fort, mais c'est le problème de Strowman de toute façon, c'est que c'est un gars qui veut juste taper souvent et qui a pas beaucoup d'ambition, on va dire, de palmarès. Donc là, bon, il est plus champion du monde, mais il a l'air de s'en foutre un petit peu, il veut juste taper. Bon, ben, Dabakoto était là. Tant pis pour toi, Kid, comme dirait Kevin Owens, ça sera pas, c'était pas ton moment là.
Non,
Bon.
terminé, garçon.
Du coup, maintenant, on verra ce que Raw Underground peut nous proposer parce que voilà, ça fait quelques semaines là qu'on nous build le géant d'Abakoto et qu'on nous met Strowman en teasing. Bon, on
Oh,
verra.
t'auras un truc genre Titus O'Neil contre Brie Bella, puis voilà quoi.
Ah, ça c'est une belle idée. Ah bah tu
Voilà.
vois, en une
Eh.
proposition, tu viens de m'allécher plus que tout Monday Nitro.
Voilà, ça y est, on a des bonnes idées, il faut qu'on soit booker.
Voilà, bah, on va aller péter du parpaing, tu vas voir ça. Allez, en parlant de péter du parpaing, c'est le main event, donc c'est le premier match officiel de Retribution à la WWE. Donc là, on se souvient avec émotion du premier match du Shield, hein, qui était à la WWE, qui était ce fameux match tonitruant contre de mémoire Kane, Ryback et Daniel Bryan lors d'un TLC. Bon, là, c'est pas pareil le casting. Donc c'est les trois gars de Retribution et c'est là qu'on découvre leur nom. Donc le grand qui se prend pour Bane, il s'appelle T-Bar. Celui qui a des dreads, il s'appelle Maze. Et l'autre qui est tout petit, il s'appelle Slapjack. Déjà, ils ont des noms. Voilà, on dirait que c'est un gamin de 10 ans qui les a créés sur la partie création de WWE, le jeu vidéo. Et donc, ils affrontent Bobby Lashley, Shelton Benjamin et, étonnamment, Cédric Alexander. Parce que, comme on nous annonçait en 3 contre 3, moi, je pensais qu'MVP allait catcher. Mais non, Alexander fait double soirée.
Attends, mieux bonne nouvelle, finalement.
Ouais. Pourquoi pas, hein, bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce match? J'ai pas noté grand-chose. Alors, les trois de Retribution commencent par isoler Cédric Alexander pendant un bon moment, qui prend cher, hein, parce qu'il y en a deux qui sont bien costauds quand même chez Retribution, là. Et ils font même ensuite à deux, les deux costauds, ils font une souplesse arrière à Shelton Benjamin. Puis, il y a un tag sur Bobby Lashley. Alors, Bobby Lashley, lui, il y va en force. Il détruit le petit gabarit, le petit Slapjack. Il lui porte même sa Nelson. Mais celui qui s'appelle T-Bar, donc le grand blanc, là, celui qui a une voix à la Bane, il fout une grosse beigne à Bobby Lashley pour qu'il lâche la Nelson. Et ça, l'arbitre, il ne le supporte pas. Ça, c'est disqualification directe. Donc, Retribution perd son premier match par disqualification. Et puis finalement, bon bah il y a tous leurs petits copains là, tous les jobbers de Retribution, tous les Retribution Ninja qui débarquent. Alors ils sont 20, 30, 40, 50 sur le ring. Sauf que là, à la musique écossaise de Drew McIntyre, c'est tout le roster de Raw qui débarque. Pas tous, hein. On nous dira tout le roster, pas tous. Moi j'ai reconnu Drew, Titus O'Neil, Carrillo, Andrade. C'est un petit peu mélangé, tout le monde se met sur la gueule. Et le seul qui n'a pas d'intérêt dans cette guerre de clans, c'est la vipère solitaire, Randy Orton, qui en profite pour se glisser, placer un petit RKO sur Drew McIntyre et partir en fanfaronnant. Donc le chaos total, comme on nous dit. Et est-ce qu'on se souviendra dans les mémoires de ce premier match de Retribution? Qu'est-ce que tu en penses, papy? Qu'est-ce que tu penses de ces jolis nicknames et de tout ce segment?
Ah, effectivement, là tu m'ôtes les mots de la bouche. Effectivement, tu l'as dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce match-là parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose finalement. Il y a une ou deux prises impressionnantes de machin et bidule, là, de, je sais pas moi, d'enclume et de Siameto. J'oublie les noms. Effectivement, le nain, qui se sont dit, on va garder un nain, vu que Retribution, c'est comme le clan des nains à la base. Bah, il se fait démolir et puis il est sur le point d'abandonner contre Lashley. Donc, c'est bien pour un match d'un clan de démarrer directement avec un abandon, ça aurait été bien. Non, ils perdent finalement par disqualification, mais ils perdent. Voilà. Donc, ils perdent sur leur premier match. Ils ont tous des noms d'acolytes. Il n'y en a aucun qui fasse. Ouais, on dirait, voilà, on dirait les acolytes du Joker ou d'un grand vilain. Mais aucun ne fait vraiment, ne ferait vraiment taulier, malheureusement. Donc, bon, peut-être qu'on ne s'en souviendra pas que ça a démarré dans un main event quelconque où ils sont dominés par le Hurt Business. Alors du coup, bah, c'est peut-être ou alors ils vont servir de paillasson au Hurt Business qui va devenir le plus grand clan de ultra dominant d'Euro. Moi, ça m'irait très bien. Hein. Si dans 2 mois Retribution est mort et que le Hurt Business est un clan qui va chercher toutes les ceintures, bah moi j'achète. Hein. Limite plus
ah
que
ouais.
Retribution.
Ah ouais, t'es un très gros fan de Hurt Business.
Bah, sincèrement, entre en plus MVP qui catch pas, c'est royal. Là, il y a comme c'est un clan qui se construit, qui récupère des gens, qui va chercher sa ceinture, qui est dominant, qui se laisse pas marcher sur la gueule. Ouais, franchement, là, on a eu les deux clans face à face et moi, je suis team Hurt Business. Là, Retribution, il va vraiment falloir qu'ils tentent quelque chose pour réveiller mon intérêt. Là, c'est malheureusement c'est dead. Donc voilà pour ce main event. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas.
Ouais, bon alors pour moi évidemment je trouve que la comparaison avec les autres clans qu'on connaît hein, qui ont un peu eu ce même début, le Shield, le Nexus, elle est plutôt cruelle parce qu'effectivement bah, le Shield on a de suite su qui c'était et comment il s'appelait, ah, la Nexus aussi, la Nexus on savait qu'il y avait que des jobs, qu'il y aurait sûrement que des jobbers et que c'était l'effet de les mettre ensemble qui était bien parce qu'ils étaient 7 donc c'était beaucoup. Là, moi je suis assez étonné parce que donc, ils ont ces masques, ils sont un peu vilains, ils ont des pseudos, comme tu as dit, de méchants de comics, de méchants de Batman. Est-ce que ça va être leur gimmick à vie ou est-ce que petit à petit ils vont entre guillemets se démasquer et puis tout d'un coup on va se dire oh mon Dieu, mais en fait le mec il s'appelle T-Bar, bah en fait c'est Dijakovic qui était à NXT parce que là on a eu les noms pour le moment que des trois mecs. Moi je suis très 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 curieux de savoir ce qu'ils vont nous sortir pour Mayhem. Qui est, enfin, c'est évidemment elle, et puis
Et
on
Mercedes
l'a.
Martinez, ouais.
Voilà, on les a vus, Mayhem, enfin, Mercedes Martinez, alors c'est peut-être moi qui suis moins NXT, mais je la connais moins, enfin, pour moi, c'est un personnage moins identifiable. Bon, je me trompe peut-être, mais alors voilà, Mayhem, on l'a vu partout NXT avec les Gargano, machin, avec Keith Lee, on les a vus en couple, on les a vus faire le segment là du repas des Gargano, enfin. Alors comment ils vont l'appeler? Est-ce qu'on va nous faire croire vraiment que c'est des mecs qui sont nouveaux, enfin on efface ce qui s'est passé avant, ou est-ce que petit à petit ils vont nous jouer ça, ce coup de oh tiens on l'avait pas reconnu sous le masque et puis en fait on le connaissait du Performance Center et de NXT, je ne sais
Moi,
pas.
j'ai l'impression qu'ils vont vraiment partir sur le fait de recréer des nouvelles identités, en fait.
Ouais, recréer
Et
des
plus
nouvelles
du
identités.
tout. Et donc, du coup, bah, ça tue un peu ma théorie que qui sont dans le groupe. Parce que si c'est pas Mihai, mais si c'est pas Dejakovic, mais que c'est, tu plus moi, porte de poignée de porte et bidule, ça va plus. Enfin, il n'y a plus l'intérêt de faire un lien, une histoire avec Kisly, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle personnalité. Ou alors ils vont dire c'était la personnalité qu'on a pris quand on a signé ce contrat. En tout cas, il n'y a plus de volonté de les démasquer parce qu'effectivement, on la reconnaît, quoi. Donc,
Ah ouais, alors ils ont des faux masques un peu de méchants, mais on les reconnaît. Pour moi, c'est le truc qui pourrait sauver l'histoire, c'est que tout ça a été en sous-main une création de quelqu'un de la WWE, comme le Shield avait été, au final, on l'avait compris plus tard, une création de Triple H et de l'autorité pour servir d'objet de vengeance et de justice. Mais ouais, là, alors déjà, j'ai beaucoup de mal à comprendre les alignements, puisque on l'a dit, j'ai déjà, mais le Hard Business, ils ont l'air des gros méchants, et puis en fait, le soir en main event, ils sont les héros de Monday Nitro, parce que la bande-son, là, elle était quand même très favorable au Hard Business. Quand Bobby Lashley a fait le hot tag, il était dans une pop qu'il a jamais eue à la WWE. Et donc, bah ouais, c'est eux les héros, quoi. C'est eux qui tiennent tout, et en plus, ils sont les seuls à se tenir debout contre ces espèces d'excités là, dont on comprend pas trop les motivations ni l'intérêt. qui n'ont pas l'air partis pour le moment pour nous faire trop rêver in-ring. On verra, il y aura peut-être des très beaux matchs, mais on ne comprend pas trop leur intérêt. Est-ce qu'ils veulent une ceinture? Est-ce qu'ils veulent... Ouais, c'est mystérieux. Et puis quand tout le monde se met sur la gueule à la fin, c'est pareil. On nous mélange les Andrade avec les Titus O'Neil, avec les Humberto Carrillo. Bon, c'est le chaos et la WWE aime bien, de manière cyclique, faire du chaos. Mais là, vraiment, je trouve que c'est plus la confusion que le chaos, en fait, dans le sens, sens où chaos, des fois, c'est excitant, quoi.
Non, mais en fait, j'ai l'impression que ça a été surtout précipité, là. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on lance quelque chose. On tourne en rond depuis des semaines, on ne sait pas quoi leur faire foutre à Retribution. Tout le monde a à peu près deviné qui c'était. Personne ne s'intéresse vraiment à la suite. Donc, autant les lancer, puis voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Là, ils ont rushé le truc, quoi.
Bon, c'est possible, surtout que là on était quand même dans un go home show et qu'effectivement Retribution a priori rien à foutre à Clash of Champions, mais de toute façon on est rassuré puisque dans les pay-per-view ils viennent pas. Bon, c'est la bonne nouvelle. Ils sont pas venus aux deux derniers, ni SummerSlam, ni comment qu'il s'appelait celui qui a eu une semaine après là, je sais plus.
Backlash,
non. Voilà. Eh bien écoute papy, voilà, on a fini pour ce Monday Night Raw. Est-ce que tu peux me donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Ouais, alors pour c'est dur là, pour le top, mais on va trouver un flop déjà. Alors le flop, donc j'épargne l'attaque team parce que il ne m'intéresse plus vu que je les boude. Je vais le donner à ce match de la division féminine qui était d'un autre temps entre Mickey James et Zelina Vega. Franchement, les divas m'avaient pas manqué, donc je n'espère plus jamais les revoir réapparaître à ce niveau de compétition. Mon top, je sais pas quoi dire. Je vais le donner à ta retranscription de l'histoire entre Rey Mysterio et Seth Rollins, qui était fort bien racontée et qui m'a fait sourire. Voilà pour le top. C'est toi mon top, Raphaël.
Oh, je suis très ému, mais je sais pas quoi dire parce que je crois que c'est une première. Hein.
Fan de catch-up.
Merci, je sais pas quoi dire. Fan de catch-up, n'hésitez pas à nous dire dans l'historique, mais je crois que c'est la première fois qu'un chroniqueur de catch-up reçoit un top. Quel événement, quelle soirée unique au monde. Mais merci beaucoup, papy, je suis très touché.
Voilà, et puis ma note, en fait, plus tu racontais l'épisode, plus ma note descendait. Tu vois, j'étais parti. Allez, je vais leur mettre la moyenne quand même. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait de bien finalement? Donc, je vais mettre un. Parce que je me suis pas tellement ennuyé. Enfin, je me suis pas ennuyé non plus. J'étais juste prostré devant ce qui se passait à l'écran. Je vais mettre un 1,5, voilà. Si je suis descendu jusqu'à 1,5 au fur et à mesure de ta fort belle review. En fait, les 1,5, c'est grâce à toi.
Oh, décidément, quelle soirée pour moi, quelle soirée. Bah écoute, j'ai la même opinion que toi, en fait. J'avais mis la moyenne. Et puis, en décrivant et en analysant avec toi, je me suis rendu compte que ouais, il n'y avait pas beaucoup de segments à sauver. Et alors, c'est drôle parce que justement, finalement, la réflexion, moi, j'avais mis le top à Seth Rollins et à ce segment un peu trollesque finalement qui était plus drôle qu'autre chose, donc tant mieux si tu m'as mis le top de l'avoir raconté parce que ça veut dire que je l'ai bien retranscrit. Moi le flop je vais le mettre à cette fin de Chaos Show avec l'intervention de Aleister Black qui pour moi très mal montée et très inintéressante. Mon impression moi de tout ça c'est le bordel, c'est à dire que on dirait qu'il y a 1000 rivalités à la fois. On dirait qu'il y a des mecs qui veulent commencer une feud, mais il y a leur mec de leur ancien feud, il y a leur ex qui les relance. Aleister Black qui vient chercher Kevin Owens alors qu'il est en train de baffer Baba Koto. Le Hard Business qui se retrouve encore avec Apollo Crews alors qu'ils sont partis loin. C'est tout le monde a l'air de se mélanger avec tout le monde. On retrouve tout d'un coup des Andrade Garza ensemble, Challenger, alors que ça semblait être fini. On dirait que en fait, ils reprennent tout ce qu'ils réécrivent ces derniers mois, puis ils ressortent certaines idées. C'est
comme s'il y avait deux personnes qui avaient écrit le truc en même temps, en fait. Ouais. Et qu'ils ont mixé les deux. Plaf !
Exactement. Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne. Et puis le fait, je trouve, d'avoir Retribution, qui est quand même une histoire de chaos et de baston dans les vestiaires, tout ce que tu veux, et le Raw Underground, qui ressemble aussi quand même d'une certaine manière, mais que les deux existent sans se croiser, je trouve que ça fait beaucoup, en fait, pour le même programme. Est-ce que Retribution pourrait pas envahir le Raw Underground et qu'on en finisse de tout ça ?
Exactement, qu'ils aillent tous dans la cave, puis
Ouais.
qu'après on y mette le feu.
Et qu'on mette de gros vigiles à la porte et personne ne sort.
Exactement, merci.
Voilà. Bon, ben on en a fini pour cette analyse. Donc, ce fut malgré tout un plaisir quand même de te retrouver, de retrouver notre tag team, hein. Merci, papy, pour ta présence et ta motivation et ton énergie à commenter toujours ce Monday Nitro avec moi.
Bah merci Raphaël pour l'invitation et puis merci de m'avoir fait rire du coup
Ben
par cette très belle review.
on a bien rigolé. J'espère que ça a été de même pour vous. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, hein. On est catch-up, donc vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur Spotify, sur iTunes. Il y a une version YouTube, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des cœurs, des plus, des roses, des fleurs, des cadeaux, des bonbons, du chocolat, de l'argent, ce que vous voulez. Pour nous retrouver et discuter de tout ça, il y a le Discord Catch-up, il y a Facebook Catch-up CDC, pareil pour Instagram et pour Twitter. Donc on s'avance doucement mais sûrement vers Clash of Champions. Il restera un SmackDown. J'avais pas prévu qu'on fasse les pronos là, j'ai pas renoté la liste, on verra ça
Oui,
pour
voilà, on le
SmackDown
fera au bout de
peut-être.
SmackDown,
Voilà.
comme ça, avec la liste définitive.
Voilà, on fera une liste définitive. D'ici là, mon cher papy, je te dis donc à très bientôt et à très bientôt tout le monde. Bonne semaine, pleine de catch. Ciao, ciao!
Salut à tous!
Ça fait bizarre quand il n'y a plus tonton Chris qui nous sature le micro, hein.
Ouais, et du coup, on n'ose plus parler, on écoute le silence.
Peuple de catcheurs.
Ouais.